Pour bien des organismes à but non lucratif, la notion de conflit d'intérêts demeure extrêmement floue. Mais la bonne gouvernance exige que ces organismes préviennent ou gèrent les conflits d'intérêts. Hélène, pourquoi ce thème est-il important?
Bien, Monique, ce thème touche un élément essentiel à la notion de l'obligation fiduciaire des administrateurs, qui sont responsables de l'organisme et doivent agir dans l'intérêt de la société et faire preuve de loyauté, d'honnêteté et de bonne foi. Or, l'intérêt personnel va à l'encontre de ce principe. Comme procédure, beaucoup d'organismes exigent que les membres du CA signent une entente à cet égard. Il est très important pour l'organisme d'avoir une culture qui encourage un comportement irréprochable et des moyens de faire. C'est d'avoir des politiques dans ce sens. La nouvelle loi 24, la Societies Act, définit ce qu'est un conflit d'intérêts et les mesures à prendre le cas échéant. Il y a des risques à ne pas suivre la loi, surtout s'il s'agit d'avantages pécuniaires, mais aussi d'atteinte à la réputation, le membre du CA pourrait assumer une responsabilité personnelle menant à une poursuite en cours et des dommages qui ne seraient pas couverts par les assurances responsabilité. On est protégé seulement quand on prend ses responsabilités et on agit honnêtement et de bonne foi.
Alors, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts alors?
De fait, il suffit pour qu'il y ait conflit d'intérêts que l'administrateur se serve de son poste, de son autorité ou de son accès à de l'information privilégiée pour obtenir un avantage ou prendre une décision qui va affecter la société de façon négative, c'est-à-dire contre ses intérêts. L'intérêt de l'administrateur revient à deux genres. La possibilité de tirer un avantage personnel, professionnel, matériel ou financier à la suite d'une décision, ou la capacité de l'administrateur d'être impartial ou de s'acquitter d'une façon objective de ses fonctions. Ce dernier est en fait un conflit de loyauté, mais ça revient au même. Le conflit peut être direct ou indirect, c'est-à-dire que le profit tiré, réel ou potentiel, peut être à l'avantage d'un proche, d'un collègue, d'un autre groupe. De même, la capacité de l'administrateur d'agir avec impartialité et objectivité peut être une conséquence d'une association avec un proche, un collègue ou un autre groupe. Qu'il existe une situation de conflit réel ou potentiel, c'est un conflit d'intérêts. Il n'est même pas nécessaire qu'un administrateur ait réellement profité de sa charge ou ses fonctions pour servir ses intérêts ou qu'il y ait contrevenu aux intérêts de la société. Le risque ou la perception que cela se produise est suffisant pour qu'il puisse mettre en cause la crédibilité de la société. Donc, un administrateur devra éviter toute situation où il y a apparence de conflit d'intérêts, même s'il n'y a aucun conflit d'intérêts réel. Il n'y a rien de néfaste à avoir des conflits, la vie en est pleine. En soi, il n'est pas néfaste de tirer un avantage pécuniaire quand on fournit un service à l'organisme comme contractuel, par exemple. Le problème survient quand un administrateur ne met pas les intérêts de l'organisme en premier et ne dévoile pas un conflit actuel ou potentiel.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de conflits d'intérêts?
Bien sûr, en voici quelques-uns. Un CA s'apprête à voter sur le renouvellement d'un contrat de service. Le propriétaire de l'entreprise en question est le meilleur ami d'un membre du CA qui participe au vote sans dévoiler son intérêt. Problème. Ou une administratrice participe aux négociations avec un bailleur de fonds. Elle est l'épouse du DG d'un organisme membre qui cherche des fonds. Ou le président reçoit et accepte des honoraires pour avoir aidé un groupe à élaborer des politiques basées sur le modèle de son organisme. Un autre exemple, un membre du CA qui siège sur le CA d'un organisme partenaire passe avant les autres sur la liste d'attente pour un service qu'ils ont demandé avant lui ou elle.
Mm-hmm. Tous ces exemples montrent quand même que ce n'est pas toujours évident dans des petites communautés. Alors, quelles sont les mesures à prendre en situation de conflit?
Bien, en pratique, on essaie d'éviter de se mettre dans une situation où on est susceptible d'être en conflit d'intérêts. Mais le cas échéant, l'administrateur doit, selon les articles de la loi, dévoiler le conflit et son intérêt verbalement à une réunion, et ceci sera noté dans le procès-verbal ou par écrit au conseil. Il devrait quitter la pièce et s'abstenir de participer à toute délibération sur la question contentieuse, à moins que les autres membres du CA demandent à l'administrateur de demeurer en CA pour fournir des renseignements, par exemple. Et enfin, il devra s'abstenir du vote et d'influencer le vote ou la décision lorsque la question portant sur son intérêt est débattue. La démarche exigée par la loi 24 s'applique à un intérêt matériel, mais le terme n'est pas défini. Donc, commençons par dévoiler le conflit réel ou potentiel pour que le CA puisse déterminer ce qu'il faut faire dans les circonstances. Par exemple, le président, dans mon exemple de tantôt, n'aurait pas empoché ses honoraires. Il en aurait discuté avec son CA et proposé de remettre les honoraires à l'organisme. Et j'ajoute que la possibilité d'un conflit n'empêche pas un administrateur d'accepter un contrat pour rendre un service à la société, à condition que le conflit ait été dévoilé et que l'administrateur et le CA aient suivi les consignes de la loi. Pour de plus amples détails, je vous conseille de consulter le texte de la Societies Act, la loi 24, aux articles 56, 57 et 58.
Et finalement, comme dernier point, nous parlerons de problèmes et de certaines solutions à envisager.